RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Avant de poursuivre nos discussions, je vous rappelle que demain, il y a une demi-finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain affronte Dortmund au Parc des Princes. Et on vous offre l'expérience RMC dès que vous entendez ceci. Eh bien, vous avez l'hymne de la Ligue des Champions. Vous avez 5 minutes pour m'envoyer PSG par SMS au 732-16. Et si vous êtes tiré au sort, que se passe-t-il? Vous visitez les studios demain avant le match, vous rencontrez les équipes des sports d'RMC. Ensuite, vous allez au Parc des Princes et vous faites le résumé du match en direct avec les équipes de l'After, avec Gilbert Bribois et avec Daniel Riolo. Soyez bien attentif. Dès que vous entendez l'hymne de la Ligue des Champions, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG par SMS au 732-16 et vous avez 2 places pour assister demain à la demi-finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Parlons maintenant des ponts du mois de mai.
RMC, les grandes gueules.
Ou plutôt de là, c'est cette semaine que tout le monde semblait attendre avec impatience parce que vendredi, les enfants n'ont pas école. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en posant juste finalement une ou deux journées, une récup, un petit peu de télétravail, eh ben, tu te retrouves avec la semaine tranquille peinard.
Ah oui, c'est la grande désertion au bureau. Mais si tu prends le 1er mai, le 8 mai, le 9 mai, le 20 mai, c'est la Pentecôte. Donc là, t'as 4 jours fériés. Si tu places bien tes jours, tu peux quasiment partir 3 semaines. Le coût pour l'économie française, entre 4 et 6 milliards d'euros d'après l'INSEE, rien que pour ces 4 jours chômés. Donc ça va être cette semaine la grande désertion, parce que vendredi et samedi, les écoles publiques sont fermées. D'autant plus que maintenant, il y a le télétravail, donc tu peux t'organiser avec ton employeur. Donc tu pars là, tu partais ce week-end et tu reviens, je ne sais pas quand, un jour peut-être. Au moment où d'ailleurs le président chinois visite la France, t'as c'est bien le parallèle entre effectivement notre modèle
chinois,
notre modèle à la française et puis le modèle chinois qui n'est pas tout à fait le même. Alors est-ce que c'est scandaleux cette façon de faire? Est-ce que c'est une mauvaise un mauvais coup porté à l'économie française?
32-16 pour le dire au GG. Mais alors, en toute franchise, hein, dites-nous si oui ou non vous en avez bien profité. Je veux dire, avec un petit coup de télétravail, une petite journée de récup. Il y a Poncé qui secoue la tête comme ça. Ouais, Bruno.
Quand je vois qu'Olivier, son modèle à lui, c'est la Chine et qu'il regrette qu'on soit pas comme en Chine à travailler du lundi au dimanche et surtout à partir de 7 ans, bah, c'est sûr que c'est vachement intéressant.
6 ans même.
Oui, 6 ans. Moi, je trouve que ce qui fait chier le MEDEF est une bonne chose. Et quand je vois que le MEDEF se plaint, eh ben, moi, je me dis que c'est bien. Vu que le MEDEF, c'est quand même des gens qui s'engraissent sur la sueur des travailleurs, au moins ça leur fera pas de mal, qu'il y ait un peu moins de sueur au mois de mai, ça déjà ça de gagner. Mais après, à un moment donné, arrêtons d'être hypocrites. Quand on était gamin, dès qu'il y avait des jours fériés, on saute au plafond parce qu'on n'allait pas à l'école, et on est adulte, on va quand même pas se dire, ah, putain, je peux pas les bosser, je dois tellement les bosser, alors qu'avec deux jours, je peux faire une semaine. Bah non. À un moment donné, faut être raisonnable. Et puis dire que 4 à 6 milliards de pertes. Ouais, sauf que t'as des gens, en fin de compte, avec le tourisme et tout, ils vont gratter des ronds. Donc arrêtons. Enfin, ça va remonter d'un côté, ça descendra de l'autre.
Oui, c'est ce qu'on appelle le transfert de secteur. Oui. C'est-à-dire que là où le bâtiment, eh oui, l'industrie vont être à l'arrêt, en fait, ça va se transférer vers le secteur de l'économie de l'hôtellerie, de l'économie de l'hôtellerie, de la restauration. Voilà, c'est ce qu'on appelle le transfert financier des secteurs.
En fait, c'est construire une société du bien-être où les gens profitent. C'est aussi peut-être avoir une société de gens qui travaillent plus. Donc, j'en sais rien. Moi, j'ai pas de. Le seul problème, c'est que les parents vont avoir, après les vacances de Pâques qui sont récentes, vont encore avoir les enfants 4 jours. Et tout le monde n'a pas la possibilité de faire des ponts. Donc, il y a, c'est vrai, personnellement et individuellement, les gens peuvent se dire, chouette, je vais pas travailler. Chouette, je peux poser des jours, mais tout le monde ne peut pas le faire. Il y a beaucoup de commerces qui sont ouverts. Il y a beaucoup de restaurants qui sont ouverts. Il y a énormément de gens qui travaillent. Et les centres de loisirs, les garderies, il n'y a pas toujours les mamies, etc. Il va falloir sérieusement se poser la question du temps de travail au regard du temps où on a les enfants et de la possibilité pour les enfants de partir régulièrement, ce qui n'est pas le cas pour des millions d'enfants. Donc,
tu sais que la semaine des vacances scolaires s'est terminée la semaine dernière pour la dernière zone.
Oui.
Donc ils sont rentrés pour repartir.
Mais c'est ça qui est incroyable. Mais non, mais c'est pour les enfants, c'est incroyable.
Bon courage pour faire les programmes.
Mais oui, non, mais bon courage aux parents. Comment ils font les parents?
Le taux d'occupation cette année des gîtes de France, là pour le mois de mai, entre 80 et 90%.
Oui, mais ils cartonnent toujours les gynécos.
Non, le problème, c'est que des enfants, ils changent de rythme trop.
Mais bien sûr.
Là, c'est compliqué de se remettre dans un rythme.
Mais bien sûr.
Il serait plus heureux en Chine, Olivier, n'est-ce pas, à faire des petits appels.
Dans des camps de travail.
Mais oui, à faire des téléphones portables. Voilà.
C'est bien, parce qu'on n'est pas dans la caricature.
Non, pas du tout.
Charles.
Comme j'ai eu l'occasion de le dire, je pense que c'est bien d'avoir ces respirations. Je ne suis pas contre ces jours fériés, etc. À condition de travailler vraiment le reste du temps. Et moi, je pense que le vrai problème dans notre pays, c'est que la culture du travail est en train de disparaître purement et simplement. Je pense que de plus en plus, au nom justement du bien-être, qui maintenant justifie tout, on est en train d'instaurer un truc où finalement le travail devient accessoire, devient un truc parmi d'autres, mais il ne s'agirait pas que ça prenne plus de temps que le yoga, la préparation du tofu, l'enseignement du tibétain et autres. Mais bien sûr, et ma grande passion pour le cinéma et la danse brésilienne et toutes ces activités ludiques.
Cinéma bulgare.
Voilà. Qui visiblement maintenant sont plus importantes que de bosser. Le travail est stigmatisé, il n'est plus perçu comme un moyen de s'épanouir ou de s'émanciper, il n'est perçu que comme une punition.
Tu connais l'origine du mot travail ?
Obligation. Non, mais tu vas
c'est trépalium, c'est torture.
Ben oui.
Ah bah en France,
travail épanouissant, merci.
Non, c'est l'origine du mot.
Voilà une bonne vision. Bah oui,
travail, c'est pas moi qui le pense.
Ça peut être épanouissant.
C'est l'origine du mot.
Et pas tous les boulots quand même, Charles.
Bah, pas tous les boulots. Mais tu vois, mais qu'est-ce que c'est que
cette situation
misérable?
Non, mais Charles, c'est
non, mais quand même certains boulots.
Charles, oui, lesquels, Charles?
Bah,
avocat dans le 7e, peut-être. Imagine que caissière à 15 heures par semaine.
Mais tu ne tiendrais pas mon rythme d'avocat.
Oh, genre, déjà, j'aurais pas pu faire tes études. Moi, j'ai arrêté en CP.
Bah voilà. Donc, excuse-moi, mais oui, vous ne tiendriez pas ce rythme.
Non, c'est vrai que c'est incroyable. Non, mais j'avoue.
Mais c'est vrai, vous ne tiendriez pas le rythme des avocats. Et d'ailleurs, un avocat qui est en vacances tout le temps, excuse-moi, c'est un avocat qui n'a pas de clients parce que c'est un avocat.
Non, il est ministre de la Justice.
Qui gagne pas ses. Bah, tu peux pas imaginer ce qu'il a bossé, Dupond-Moretti. Bah, il a bossé comme un chien.
Je dis pas le contraire.
Il a bossé, il y a laissé sa santé.
Tout le monde n'a pas envie d'avoir ça. Oui, mais personne ne veut avoir ça. Qui veut avoir la vie de quelqu'un qui
Et il s'est quand même épanoui dans son boulot. C'est ça que je veux dire.
Chacun sa vie. On peut pas avoir beurre, l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on peut pas se plaindre en France, à juste titre, qu'on gagne pas assez, si on travaille, pas.
Un chirurgien qui gagne bien sa vie, d'abord.
À un moment donné, il n'y a pas non plus 50 000 solutions pour mieux gagner sa vie.
Mais ça vaut en plus pour toute l'économie. C'est ça que vous arrivez pas.
Un commerçant, il sait très bien que plus il vendra, plus il gagnera sa vie. Donc il restera ouvert.
On va aller si tu permets, Charles, en Haute-Vienne, faire une illustration concrète avec Benoît qui est jardinier. Bonjour Benoît.
Bonjour les GG.
Est-ce que vous allez bien profiter de cette semaine alors, Benoît?
Ah oui, on va bien profiter de cette semaine. C'est ce que je disais, nous on a une famille recomposée. Moi j'ai posé mon vendredi, ma compagne elle a posé son vendredi, son samedi matin, mercredi matin, on s'en va au bord de la mer, on passe 5 jours avec les enfants. C'est assez cool. Rare.
Ouais, vous êtes bien. Et vous et votre compagne, vous êtes arrangé avec l'employeur, alors ça n'a pas posé de problème.
Oui, alors nous, on est tous les deux fonctionnaires et contrairement à ce qu'on pense, ben, la semaine dernière, on n'a pas fait le pont, hein, parce qu'on n'est pas tous des feignants, comme on dirait. D'ailleurs, un petit coup de gueule, il y en a marre du fonctionnaire bashing, hein, parce qu'on n'est pas tous à la mairie de Paris, et il y en a quand même beaucoup qui font leurs 35 heures, hein, la plupart font leurs 35 heures, voire plus. Moi, par exemple, je suis à 37h30 et 39h dans l'année, je récupère des RTT, mais on fait quand même des bonnes semaines. Et on
vous partez comment à la mer, vous avez trouvé, vous partez en voiture ou en train parce que...
Ah, on part en voiture parce qu'on fait camping,
il y a du monde,
un peu de matériel. Oui, c'est pas grave, hein. Nous on n'est pas pressé, nous on est en week-end, donc on n'est pas pressé, on va y aller cool. Et comme je disais, nous on a au moins deux de nos enfants qui bossent, qui ont commencé une vie active, hein, donc en apprentissage, un salarié. C'est pas toujours évident de partir tous ensemble.
Là c'est l'occasion.
Donc là, c'est l'occasion de se faire une petite semaine, un long week-end tous ensemble, ce qui est quand même cool.
Vous allez dans la famille ou vous avez réservé un petit camping?
Pas du tout, on a réservé un petit camping à côté de la Cano, tranquillement, pour pouvoir profiter, pour pouvoir visiter un petit peu Bordeaux.
Après, oui, si vous allez faire marcher le commerce local, le camping...
Études montrent que ça ne compense pas.
Moi je me rappelle de mes cours d'économie, hein, quand j'étais plus jeune, où on disait que pour qu'un pays aille bien, il faut que son PIB, ça soit 30% d'industrie. Nous, je crois qu'on est à peu près 12%. Donc quand on me dit, on a voulu faire un pays de services et de tourisme. Exactement. Et là, on est en train de nous dire, le tourisme va fonctionner, mais c'est dommage, fallait être cohérent hein, dans les 30, ouais. 40 dernières années, il fallait savoir ce qu'on voulait et ce qu'on voulait prévoir.
Ben ça, c'était des choix politiques, mais de ceux qui nous ont gouvernés, c'est des gens qu'on a mis au pouvoir aussi. On est tous co-responsables de ça.
Ils sont tous
je suis tout à fait d'accord, sauf que ces gens-là qu'on a mis au pouvoir et qui ont fait des grandes bêtises, on continue quand même à les payer pour la plupart. Et donc, c'est des choix politiques. Donc, peut-être que ça serait bien qu'ils commencent à réfléchir au-delà de 5-6 ans, mais peut-être sur 50 ou 60 ans, comme font par exemple les Chinois ou les Américains ou les Russes. Hein, serait peut-être pas mal.
L'économie américaine est en plein boom en ce moment.
Bien sûr.
Il y a une industrie américaine, il y a une croissance qui doit être de 2,5-3, quand nous, on est à 0,1.
Oui, mais les Américains font le choix de travailler un peu plus, d'avoir un peu moins de charges, un peu moins de redistribution.
Oui, mais
et aux États-Unis, oui, c'est horrible. Oh là là, tu payes l'école de tes enfants.
Oui, mais Charles.
Oh là là, tu prends une assurance privée pour ta santé. Ah, mais quelle horreur, mais c'est presque des camps de concentration. Bah, résultat, ils sont deux ou trois fois plus riches que
oui,
nous.
Mais Biden
et nous, on est là, rien branlé.
Biden a injecté des milliards dans l'économie américaine.
Et notre système qui marche pas.
Ça, c'est chose que tu détestes. Biden a quasiment nationalisé la plupart des entreprises américaines. Il a injecté de l'argent et des milliards là-dedans pour les faire péter.
Charles. Benoît, je suis pour un état stratège sur les secteurs d'avenir.
Allez-y, Benoît.
Concrètement, moi, j'étais pas spécialement pour les 35 heures. À l'époque, on était à 39 heures. Moi, j'étais dans la restauration, on en faisait 43. Souvent, on en faisait dans les 50-55 et on était payé 43. Donc voilà. C'est des choix.
Le problème des 35 heures.
Il faut arrêter de dire. Moi, c'est un discours qui m'énerve. Il faut arrêter de dire que les Français travaillent moins. Je pense que les Français ont peut-être plus de congés, peut-être des semaines un peu plus courtes, mais il y a quand même une productivité qui est présente. Et concrètement.
Ah, mais on branle rien, enfin, qu'est-ce que vous racontez? Mais on branle rien en France, c'est ça la réalité des choses. Cher monsieur, mais vous pouvez pas joindre un service public par téléphone aujourd'hui. Moi, je le vois comme avocat, j'essaye toute la journée de joindre des services publics, ça ne répond jamais. Vous faites face en permanence à des horaires absurdes, les trucs sont ouverts du jeudi au jeudi soir.
Vous n'avez pas de la faute des salariés, ça.
De 16h à 16h30, mais attention, seulement les semaines impaires, enfin des jours impairs.
La faute des salariés. Bah,
excusez-moi de vous dire, c'est quand même un pays dans lequel une culture de la branle, du non-travail, s'est instaurée. Regardez l'accord qui vient d'être négocié pour les contrôleurs SNCF. Ils partent un an avant la retraite, ils sont payés quand même, ils peuvent ne pas bosser pendant un an. Mais on
avant ça, c'est la pré-retraite.
Ça suffit. Voilà. Je suis désolé, je trouve que il faut regarder la réalité.
Charles, on embauche.
Et c'est pas que dans le secteur public. C'est pas que dans le secteur public. Dans plein de secteurs, les gens branlent pas rien. Dans les entreprises, c'est devenu impossible de faire travailler les gens. On n'est plus un pays qui bosse, faut dire.
Benoît, en tout cas, profitez bien avec votre compagne et les enfants, Benoît. Merci d'avoir été avec nous, Benoît. On va écouter Jean-Bastien qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour, Jean-Bastien.
Bonjour, les amis.
Vous êtes commerçant, comment vous la voyez arriver cette semaine? Enfin, même le mois de mai d'ailleurs, dites-nous.
Le mois de mai, la semaine dernière, c'est plutôt bien passé pour le coup, parce qu'on n'a pas eu trop de départs en pont, justement, parce que ça sera surtout cette semaine-là. Mais c'est vrai que cette semaine, on va faire 50% du chiffre qu'on est censé faire sur une semaine lambda.
C'est la semaine de la mort, là.
Celle-là, c'est la semaine de la mort complètement. Donc là, c'est effectif minimum. Je peux pas poser plus d'heures parce que sinon le magasin ne tournera pas comme il devra tourner. Mais pour revenir sur ce que disait Charles à l'instant, j'essaie d'avoir les impôts depuis 3 semaines, c'est impossible. Je n'arrive pas à avoir les impôts depuis 3 semaines, alors que je leur dois 500 euros, donc ça serait bien éthique pour eux, mais non. Mais c'est vrai que sur Levallois, en plus de manière générale, dès qu'il y a un week-end, dès qu'il y a un pont, dès qu'il y a un jour férié, une vacance, la ville se désertifie complètement, et c'est particulièrement frustrant quand on est commerçant, et surtout dans ces villes-là. Dommage qu'il n'y ait pas Marianne aujourd'hui pour pouvoir en parler, puisque je sais qu'elle habite à Levallois.
Elle est partie.
Elle est plus à Levallois, d'accord. Ça, c'est peut-être pour ça.
Non, elle habite au Canada, maintenant.
Elle habite au Canada.
Elle a changé de vie. Mais c'est pas grave. On l'embrasse.
Jean-Baptiste, pourquoi vous n'en profitez pas vous-même pour prendre quelques jours, alors?
J'ai pris quelques jours, mais là pour le coup, en termes de structure, en termes d'heures pour faire tourner le magasin, il faut qu'on soit minimum 2 et ça sera le minimum du minimum. Ouais. Mais on pourra pas faire plus. Si on fait le budget que j'ai prévu, ça devrait pouvoir passer en termes de rentabilité. Mais c'est vrai que ça nous fait pas du tout du bien en termes de business.
Mais Jean-Bastien, je comprends, vous le commerçant, vous dites, nous on est impacté, mais Sébastien qui lui est du côté de la Haute-Loire, Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Un fidèle des GG qui gère une maison d'hôte.
Oui.
Vous, c'est plutôt jackpot, quoi, alors.
Eh ben, disons que ça nous permet de remplir nos chambres et tout ça. Donc,
toute la semaine.
En fait, l'économie perd d'un côté et retourne de l'autre, quoi.
Oui, et là, toute la semaine, vous êtes complet?
Pas tout complet. Il nous manque une chambre à louer. Je pense que d'ici 3-4 jours, ça sera loué, quoi. Voilà.
Ouais, la météo, elle est plutôt correct.
Alors,
en plus.
C'est pas terrible en ce moment, mais à partir de mercredi, enfin, le soleil pointe son nez, quoi. Donc, voilà.
Ça va vous aider.
Voilà. Mais,
Sébastien, du coup, là, les réservations, parce que ce mois de mai, on l'a vu arriver quand même. Donc, elles sont faites longtemps en amont, alors, Sébastien?
Alors, on en a eu longtemps en amont, et puis là, on a eu du dernier coup par coup, quoi.
Ouais.
Voilà, quoi.
Bon, ben c'est plutôt pas mal, ça vous donne sourire, ouais, ça.
Ah bah oui, bah de toute façon, en fait, une réservation d'un mois, par exemple, sans pont ou n'importe quoi, sur les mois creux, hein, je parle, hein, on va être à 40%. Sur un mois plein, sur un mois où il y a des ponts comme ça, on va être à 75-80%, quoi. Donc, c'est énorme pour nous.
Vous entendez, Sébastien, Jean-Bastien, vous faites la grimace, mais Sébastien, il a plutôt le sourire, quoi.
Mais tant mieux pour eux, parce qu'en plus, c'est vrai qu'avec la météo en ce moment, ils n'ont pas dû avoir beaucoup de monde, donc non, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que, oui, non, mais là, peut-être, la dernière chambre, je vais peut-être la prendre, du coup. Mais,
bah, écoute, si tu veux, voilà. Il n'y a pas de problème.
Pourquoi pas? Mais effectivement, oui, non, c'était gagné d'un côté et gagné de l'autre, mais c'est vrai que, malheureusement, à une époque, c'était et l'un et l'autre. Maintenant, on n'est plus que sur l'un ou l'autre, c'est assez dommage pour le coup. Mais bon, tant mieux pour les autres, c'est dommage pour nous.
Je pense que les Français se bercent d'illusions. Regrette en même temps de ne plus être un grand pays, de ne plus avoir voix au chapitre, de se faire rouler dessus par la Chine, de ne plus être capable d'envoyer un canon à l'Ukraine. Mais c'est vrai, on est là à chouiner et en même temps, plus personne veut travailler. Je pense qu'il y a une petite incohérence. Il suffit de voyager un peu pour voir à quel point on est à la ramasse. Enfin, Paris, par exemple, ne ressemble plus du tout aux grandes capitales du monde.
C'est la faute à qui,
par rapport à Londres, par rapport.
La faute à qui, Charles?
Je vais te donner un exemple très concret, tiens, qui va te plaire. Je vais dans une salle de sport à Paris, tu vois, pour garder forme humaine.
D'ailleurs, tu es très bien là.
Bon, voilà.
C'est tant qu'il y a, Charles.
Et évidemment, comme je suis un connard bling-bling, cher Zora, je paye une salle de sport chère dans le centre de Paris. Elle est fermée les jours fériés. Donc, c'est-à-dire que les jours fériés où toi t'aimerais bien aller faire du sport, t'as envie. Non mais tu vois, t'es le jour férié, tu vas pas bosser. Tu te dis je vais aller faire du sport. Non.
À mon avis,
j'ai demandé au patron de la salle. Évidemment, je gueule. Je lui dis mais comment ça se fait, hein? Ça lui coûte trop cher.
Ah oui.
En charge sociale, en salaire, de payer son staff les jours fériés, alors que c'est une salle que les adhérents payent une blinde. Il y a d'ailleurs plein de politiques dedans. Je donnerai les noms. Pour ceux qui veulent au 32-16.
Et des photos sur tout ça.
C'est assez œcuménique d'ailleurs. C'est assez marrant. Mais donc, excusez-moi, dans n'importe quelle grande capitale du monde, un truc comme ça, c'est même pas envisageable.
Alors, merci Jean-Bastien d'avoir été avec nous. Merci.
Venez vous oxygéner en Haute-Loire un peu.
Non, c'est trop loin.
Merci.
Si, bien sûr.
Ah bon, Sébastien, si jamais Jean-Bastien vient me voir, vous lui faites une ristourne. Hein,
Il n'y a pas de problème. Alors, vous
voulez
bien le nom de la maison d'hôte, ça s'appelle la Dromandise, et je vous accueille avec plaisir. Et Zora aussi, si elle le désire.
Merci.
Alors, une petite ristourne chez nous aussi. Allez. Voilà.
Et alors, votre magasin, c'est quoi, Jean-Bastien, vous alors?
Moi, je travaille pour Cyrillus.
Pour Cyrillus.
Cyrillus.
Excellent. Salut Jean-Bastien, salut Sébastien, merci d'avoir été avec nous. Alors,
bon, les enfants bien peignés.
On met la France à l'arrêt pour en voir votre perception. Quand même, c'est assez mitigé. Non, 51. Oui, 48.
C'est 50-50, ceux qui vont gagner de l'argent et ceux qui vont en perdre. C'est ça.
C'est à peu près le niveau des charges sociales.
Dans un instant, on va reparler de ce qui est arrivé à Éric Zemmour qui s'est fait prendre à partie du côté d'Ajaccio. Alors du coup, il a répliqué à une femme, il a essayé de la frapper. Mais je lisais un peu les commentaires. Et sur Éric Zemmour, on dit, écoutez, quelqu'un qui sème la haine, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment ou un autre, ça lui tombe dessus aussi.
Mais non,
ça
parce qu'il y en a d'autres qui ont pris des œufs, c'est n'importe
figure.
Quoi.
Allez,
argument.
À tout de suite au 32-16.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Charles Consigny, avocat, Zora Habitant, cadre de la fonction publique, et Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste. On va reparler là pendant une dizaine de minutes de ce qui est arrivé à Éric Zemmour à Ajaccio.
RMC, les grandes gueules.
C'était ce week-end, il était en déplacement sur un marché d'Ajaccio, déplacement qui n'a pas plu à tous, et alors sur les vidéos, on peut entendre qu'il s'est fait fait conspuer, il a pris notamment des œufs sur la tête. Puis à un moment, il s'est un peu énervé vers une femme qui approchait vers lui, qui était en train de visiblement d'essayer de la gripper, peut-être de lui envoyer un œuf. Il a eu un mouvement, l'impression qu'il l'a tapé. Écoutez ce que disait le prestataire sécurité de Reconquête.
Dans un mouvement défensif, son garde du corps essaye de maîtriser la personne qui l'agresse et Éric Zemmour se retourne, la repousse dans un mouvement défensif pour pouvoir s'extraire de la situation
et d'enjeu dans laquelle il est. Frapper à son tour.
Alors, il ne frappe pas la personne, c'est vraiment, il va se mettre lui-même en sécurité, il va s'extirper. Il est depuis 5-10 minutes sous une pluie de projectiles d'insultes, et là, d'un coup, il reçoit un coup dans le dos. À ce moment-là, vous ne savez pas si c'est une pierre, si c'est un coup de couteau. Et donc, le premier réflexe, mais qui serait le vôtre, qui serait le mien, qui serait celui de tous les Français, c'est de se dégager, c'est de repousser son agresseur.
Voilà, c'est un mouvement défensif.
Oui, alors, ce qui est amusant, c'est qu'une partie de la presse, avec beaucoup de mauvaise foi, transformer ça en deux points, ouvrez les guillemets, Éric Zemmour a frappé une militante.
Mais c'est ça le problème.
Alors, c'est quand même,
non, mais c'est ça qui est
là,
incroyable.
On inverse un peu les choses. On peut détester Éric Zemmour et ce qu'il représente. Le droit d'aller en Corse, il a le droit d'aller faire campagne sur un marché à Ajaccio. Il est accueilli quand même par une quinzaine de militants de gauche, des membres du Parti communiste qui étaient sur place, des membres de la CGT, c'est pas moi qui le dis, c'est Corse Matin, c'est toujours un peu les mêmes qui perturbent, d'ailleurs les mêmes qui derrière vont défendre la liberté d'expression pour d'autres, mais qui ne supportent pas la liberté d'expression de ceux qui pensent pas comme eux. Et donc ces militants l'ont traité de facho, dégage, etc. La Corse, c'est pas pour toi. Et puis il y a eu cette femme qui fit arrive par derrière, une veste qu'on voit sur les vidéos, en jean, elle tente de lui jeter un œuf, et à ce moment-là, Éric Zemmour se retourne, un réflexe, pour essayer de la pousser. Est-ce qu'il a frappé cette militante? Est-ce qu'il devait se laisser faire? Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est, ce qui est incroyable, c'est comment est réécrite l'histoire? Le problème, c'est pas Zemmour, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Personne vous demande de vous exprimer si vous l'aimez ou vous l'aimez pas. C'est une situation. Et en fait, ce qu'il y a de grave aujourd'hui, c'est que les journalistes ne retranscrivent, beaucoup de journalistes ne retranscrivent plus des faits, mais sont dans l'idéologie. Je déteste Zemmour, donc je fais un titre qui reflète pas du tout la réalité. Écris la réalité. On te demande ni si c'est bien ou pas bien. On te demande pas de te positionner pour ou contre Zemmour. Écris la réalité de ce que tu as vu. Ensuite, les lecteurs jugeront. Ensuite, les lecteurs verront. Or, là, qu'est-ce qui se passe une fois de plus? Une fois de plus, on renforce les électeurs à la fois de Reconquête et du RN en disant voilà, une fois de plus, le camp du bien se permet en plus de mentir pour encore salir des candidats qui ont tout à fait le droit et la liberté de faire campagne, de dérouler leurs opinions si tant est qu'ils restent dans les clous, etc., etc. Donc il y a rien de gagné, il y a aucune gratification à lutter contre les extrêmes à partir du moment où on ne raconte jamais la vérité et on raconte plutôt une idéologie qui ne sert que soi-même. Et c'est ça le problème. Moi, je me mets à la place d'Éric Zemmour. Je vais quelque part, on considère que je ne suis pas la bienvenue. On va pour m'agresser, pour me jeter je ne sais quoi d'ailleurs, parce que je ne le vois pas. Qu'est-ce que je fais? Je peux très bien me retourner et vouloir rendre le coup ou pousser la personne. J'allais dire sa position de se défendre. Quand Bayrou se retourne et met une baffe à un môme, un mineur.
Tout le monde a applaudi.
Parce qu'il a fait, les poches. Tout le monde a applaudi. Personne n'a titré.
Alors que c'était plus facile, c'était un môme.
C'était un gosse, donc c'était deux fois plus facile. Si on fait le parallèle entre deux hommes politiques, dont un se fait faire les poches et il met une tarte à un jeune, à un gosse qui était derrière lui, la réaction
mais
a
on
été.
On dit c'est une femme. Alors tout d'un coup, il ne faut pas frapper une femme. C'est ça.
Mais il ne faut pas frapper un gosse non plus, une gifle.
Je suis d'accord.
C'est
avec
pas
toi.
Mieux, c'est pire même. Oui. Là, il s'est défendu. Non, il a pas frappé une femme. C'est une femme qui était venue pour lui lancer un œuf et il a eu une réaction de se défendre. Mais c'est pas pareil. Là, Bayrou, il lui fait la poche et il se retourne, il lui met une gifle. Ouais. Tout le monde a applaudi Bayrou. C'est quand même incroyable.
Non, j'étais aussi stupéfait de voir. Les médias et aussi quelques responsables politiques dire Éric Zemmour lève la main sur une femme.
Oui,
c'est une honte, je veux dire. Il a une espèce de harpie hystérique qui lui balance des œufs sur la gueule. Et qu'est-ce qu'il devrait faire exactement? Il aurait fallu mettre quatre nains pour le protéger. Et lui, au moins, il sait faire. Tac, ça aurait réglé le problème. Mais j'ai trouvé ça honteux. Je veux dire, moi j'aurais fait comme lui. Je veux dire, une nana me balance des œufs sur la gueule. Évidemment que je la repousse. Je me défends. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette
histoire? Mais oui, on te demande pas est-ce que tu l'aimes ou pas.
Et j'ai vu, pas les jours fériés. Et j'ai vu que certains responsables politiques aussi. Ah voilà, oui. Zemmour, ah, n'hésite pas à s'en prendre aux femmes, nanana. J'ai vu des tweets, je sais même plus qui l'a dit, des gens de Renaissance, je crois, ou de la gauche, je sais plus. Mais voilà.
Mais voilà,
je m'interroge aussi d'ailleurs sur sa sécurité. Je pensais qu'il avait des gardes du corps plus aguerris.
Recevoir des œufs, c'est courant, de la farine.
Enfin, ils ont pas
Hollande avait reçu de la farine, je me souviens.
Ils n'ont pas l'air très efficaces. Voilà. Et quant aux commentaires qui disent celui qui propage la haine ne peut s'en prendre qu'à lui-même et tout, non. On est quand même.
On est dans une démocratie.
Oui, on doit pouvoir débattre à peu près.
Et puis opposer des idées.
Moi, j'étais un peu dissonant. Moi, je vais en Corse début du mois de juin et je suis fier que le peuple corse n'accepte pas Zemmour avec bras ouverts. Ça prouve encore que Zemmour s'est trompé certainement. Il a dû croire que là-bas, il serait en terrain conquis. Ben non. Et voilà. Et comme vous l'avez dit, il y en a plein qui ont pris des trucs. Je crois que j'ai cru voir Marine Le Pen il y a quelques années au sein de l'agriculture. Enfin, il y en a eu. Macron aussi a pris des trucs. Il avait même pris une claque, Macron, un jour. Donc voilà, les hommes politiques.
Au fil de Montjoie.
Ouais, Montjoie Saint-Denis, au cri des trucs des visiteurs, c'est pas mal quand même. Mais en fait, moi, je me dis qu'à un moment donné, et oui, évidemment qu'il faut pas taper les gens, comme ça. Mais moi, je trouve que d'en faire tout un plat, et après, quand je le vois qu'il veut se retourner taper une femme, bah ouais, effectivement. Mais après, ce qu'il avait écrit sur les femmes, c'est peut-être normal. Peut-être la considération qu'il a pour les femmes, il l'avait déjà écrit dans son bouquin.
Mais non, puisque Hollande a pris de la farine, le président crêpes, Macron a pris une tarte, enfin bon, il a été giflé. Enfin, c'est courant que les hommes politiques. Voilà, donc voilà.
Oui, mais ça, c'est pas normal. Moi, je suis désolé.
Mais non, c'est pas normal, c'est ce que je dis.
Il y a une dérive.
Ce n'est pas normal.
Je trouve qu'on a banalisé.
On doit l'accepter pour personne.
Je trouve qu'on a banalisé le fait que on
mais oui,
puisse,
mais oui.
Parce qu'après, on va dire Zemmour, oui, mais Zemmour. Alors,
Ménard,
ça,
vous vous souvenez, Robert Ménard, qui avait été agressé.
Non, mais Zemmour, j'ai entendu l'argument classique.
Oui.
Sème le vent, récolte la tempête. Mais alors, dans ce cas-là.
Bah, Hollande, avec la finance, pareil.
On s'en prend à Macron. Bah, alors,
oui.
On a toujours bonne raison de s'en
mais
prendre
oui,
à quelqu'un.
Mais oui.
Et on va s'en prendre à Mélenchon parce qu'on n'est pas d'accord sur
mais
son
oui,
ça.
Mais oui.
On est dans la République. Dans la République,
voilà. Donc, c'est un argument qui n'est pas recevable.
Mais non, mais absolument pas. Il faut surtout pas rentrer là-dedans parce que cette histoire de dire oui, mais Zemmour.
On peut toujours légitimer
mais oui,
la violence.
Mais chacun dans son camp va
Grégory
donner
va
une justification.
En discuter avec nous. Bonjour Grégory.
Oui, bonjour à tous. Bonjour
les Angles. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire, Grégory?
Moi qui déteste ce que peut représenter un Éric Zemmour et qui souvent ne suis pas forcément d'accord avec les opinions d'Olivier, là je trouve que c'est très bien ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître que les médias, pour faire du buzz, là, déclare comme quoi Éric Zemmour s'en serait pris violemment à une militante. Ouais. Moi, je trouve que c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la désinformation et la transformation de la vérité. C'est-à-dire que moi, je pense qu'effectivement, il a eu un geste défensif. Alors, on va bien prendre avec des guillemets ce que peut dire le référent sécurité d'Éric Zemmour, mais il a eu un geste défensif sur une agression. Ça s'entend. Après, ça n'empêche pas moins ce qu'il peut penser des femmes et des gens en particulier, si c'est pas...
Ça, c'est autre chose.
Ça, c'est autre chose.
Dire, c'est autre chose.
Exactement.
Mais il faut le combattre sur ses idées.
Ben voilà.
Exactement.
Et d'ailleurs, quand on est journaliste et qu'on relate des faits, on relate des faits. On vous demande pas votre avis. Est-ce que vous aimez ou pas Éric Zemmour? C'est pas ça la question.
Exactement. Et le problème, c'est que ça fait, je sais plus comment s'appelle cet effet, mais l'effet totalement inverse. C'est qu'au final, on va victimiser encore une fois de plus.
Total. C'est exactement ça qui se passe.
Ouais, c'est qu'on va victimiser un Éric Zemmour parce que du coup, il va s'être défendu et presque, ils vont le glorifier sur des idées qui sont, à mon avis, totalement absurdes. Mais dans l'idée, c'est qu'on fait l'effet inverse de ce que ces gens auraient voulu faire. Donc, autant la violence sur un élu politique, je trouve ça d'une bêtise monstrueuse. Mais les journalistes, pour faire vendre de l'information, là, qui transforment la vérité et qui, du coup, sur un
non, c'est pire que ça, Grégory. Ils vendent pas de l'information, ils trafiquent et ils mentent sur l'information.
Grégory, on va voir ce qu'en dit Gérald qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Gérald.
Oui, bonjour à tous.
Et vous, qu'en dites-vous alors?
Non, non, c'est évidemment une honte et c'est toujours les mêmes, en fait, qui s'en prennent toujours à cette droite ou cette droite forte. Et il faut remarquer une chose, moi, je n'ai jamais vu dans les médias ou même dans les meetings ou même ailleurs une droite, un militantiste ou électeur aller voir des Mélenchon ou aller voir autres et leur balancer des œufs sur la tête ou les invectiver tel qu'ils le font avec Éric Zemmour ou d'autres.
On se souvient peut-être qu'ils ont un meilleur service d'ordre.
Pardon ?
Ils ont peut-être un meilleur service d'ordre, hein, l'extrême gauche. Hein.
En fait, il y a un peu plus de respect aussi au niveau de la droite que la gauche.
Oui, c'est vrai qu'au meeting de Zemmour, quand ils avaient tabassé des journalistes ou des militants, c'est très intéressant. Ouais.
D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, ça conforte, en fait, tout simplement les électeurs de droite à rester au RN, à rester chez Reconquête ou à rester, en fait, chez la droite classique. Donc, qu'ils continuent.
Vous-même, vous êtes encarté au MoDem.
Aujourd'hui, vous n'avez plus d'électeurs indécis. Vous n'avez plus de gens, en fait, qui ne savent plus par qui voter ou quoi que ce soit. C'est soit les gens ne votent pas, ou soit, en fait, ça conforte, en fait, tout le monde. Dans le parti où ils souhaitent tout simplement voter.
Donc,
c'est pour moi je le prends comme ça. C'est extrêmement grave ce qui se passe. On est dans une tendance aujourd'hui qui est ultra violente. On le voit. Tous les jours il y a quelque chose qui se passe. Honnêtement, ça va pas s'arrêter là et ça risque de continuer. Et ça va aller en pire.
Regardez d'ailleurs Gérald le nombre de maires qui se font agresser, le nombre de maires
par exemple
qui ont renoncé à leur mandat lors des dernières élections municipales.
Il y a de moins en moins de gens qui veulent être élus.
Vous en aviez quasiment 30% qui avaient renoncé à se représenter, tant la charge est lourde.
Mais c'est le danger.
Tant la charge est lourde, mais moralement et physiquement.
Mais
aujourd'hui.
Ils se font frapper, justement. Parce que il va voir le voisin qui balance ses déchets n'importe où, et il se prend une gifle. Enfin,
c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens, comme la gauche a, entre guillemets, légitimé le fait que quand la gauche est violente envers la droite et l'extrême droite, c'est pas très grave. Et comme elle a légitimé cette culture-là, finalement, elle a radicalisé encore plein de gens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au lieu d'être dans le débat d'idées de fond d'une société contre une société, d'être dans la démocratie pure et dure, c'est-à-dire qu'on débat, y compris avec les gens qui sont à l'opposé de ce qu'on pense, et qu'on y va argument contre argument, on a radicalisé des militants. Et c'est vrai que globalement, c'est plutôt la gauche qui a ce sentiment de puissance dans le camp du bien et qui dit « je peux agresser des gens d'extrême droite ». Parce que de toute façon, c'est des méchants.
Allez-y, Gérald, oui.
Non, c'est bon. Merci à vous.
Ah, d'accord. Grégory, allez-y, je vous en prie.
Zora, pourquoi cliver de gauche la violence ? Enfin, moi, c'est là où est mon problème. C'est-à-dire que du coup, vous faites le même jeu que ces médias. C'est-à-dire que pourquoi dire que la violence appartient à la gauche ?
J'ai pas dit ça. J'ai dit que la violence était toujours mieux perçue lorsque c'est quelqu'un de gauche qui la commet vis-à-vis de quelqu'un d'extrême droite que l'inverse. On s'indigne, la gauche s'indigne plus facilement lorsque c'est quelqu'un d'extrême droite qui attaque quelqu'un de gauche que l'inverse. Pourquoi ? Parce que la gauche a décrété qu'elle était le camp du bien, qu'elle pensait mieux que tout le monde et qu'elle avait de toute façon raison sur tout. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on va pas convaincre des électeurs, on va pas convaincre des Français qu'on a la meilleure solution que les autres en légitimant la violence, quelle qu'elle soit. Le cas Zemmour, est l'illustration de ce que je viens de dire.
Grégory et Gérald, je vous remercie d'avoir participé à nos discussions tous les deux. Passez une bonne journée, que ce soit du côté du Rhône ou de l'Hérault. Merci Grégory, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, justement, c'est intéressant de regarder les dernières prises de parole, que ce soit justement Reconquête, François-Xavier Bellamy ou Marine Le Pen, puisqu'on parle de la droite. Chacun se revendique de la vraie droite. Mais qui incarne la vraie droite aujourd'hui? Si on se fie au sondage et au dernier tour, deuxième tour des élections présidentielles, c'est quand même le Rassemblement National. Désolé. Donc, le Rassemblement National a-t-il remplacé la droite? Oui, pour Bruno, Olivier et Zora. Non pour Charles, qui va faire seul face au reste du monde. Et on vous attend au 32-16.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui dans les Grandes Gueules, Charles Consigny, avocat, Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, Zora Bitton, cadre de la fonction publique. Les Grandes Gueules, c'est de 9h à midi. La première heure des GG est d'ores et déjà passée. Vous pouvez la rattraper sur notre appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Allez, on y va pour notre GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
GG 7 et match autour de ce que l'on entend aujourd'hui dans les meetings ou à la radio, à la télé,
à un mois maintenant du premier tour des élections européennes, parce que c'est sur un seul tour. François-Xavier Bellamy, lors d'un meeting, il s'est posé en candidat de la vraie droite. N'égarez pas votre vote vers le RN. C'est ce qu'il a dit, la tête de liste, les Républicains. Nous proposons une alternative pour une vraie droite authentique. C'est ce qu'a dit Marion Maréchal pour Reconquête. Et ce matin, Marine Le Pen a dit « Nous sommes le bouclier des Français ». Bref, la vraie droite face à l'Europe techno, face à l'immigration. Écoutez-la avec Apolline de Malherbe.
C'est vrai qu'il est en train de se passer quelque chose. On le voit aux européennes. Autour de notre mouvement, autour de nos thèmes, autour de notre candidat Jordan Bardella qui est un véritable enthousiasme et je me réjouis évidemment de cela. Je n'ai jamais cru au plafond de verre. En revanche, ce que je crois, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est que si le peuple vote, le peuple gagne. Et si le peuple ne va pas voter, alors le peuple perd.
Alors Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est vrai qu'ils caracolent en tête. Marine Le Pen, elle a été deux fois au deuxième tour de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est elle aujourd'hui l'incarnation de la vraie droite? Oui pour Bruno Zora et Olivier, non pour Charles Consigny, qui fait donc seul front face au reste du monde. Mon cher Charles, c'est à toi les 60 secondes.
Je pense que tout simplement, il suffit de regarder les programmes. Et pour moi, le programme du RN n'est pas du tout un programme de droite. Qu'attend un électeur de droite d'une action politique en ce moment en France? Il attend une baisse des impôts importante, une baisse des dépenses publiques importante, un retour au travail, la fin du misérabilisme, la fin de l'assistanat. Que propose le RN? Aucune baisse particulière de dépenses publiques, aucune baisse d'impôts particulière, la retraite à 62 ans, c'était encore 60 ans il n'y a pas longtemps, et pour rassurer les milieux économiques, les patrons, ils sont passés discrètement à 62 ans, l'assistanat, le misérabilisme. Donc je suis désolé de vous dire que pour moi, sur les questions économiques et sociales, ça n'est pas un parti de droite. Je pense que aujourd'hui, la droite est peut-être sans incarnation, la droite que je viens de décrire, mais à mon sens, son incarnation n'est pas au RN.
Réponse du camp d'en face.
Simple, efficace, vous avez un âge.
On pourrait entendre Charles, et quand Charles parle, mais Charles, il parle tellement bien, moi je trouve brillant ce Charles.
Tu bois ses paroles.
Ah, je bois les paroles de Charles. Le seul truc, c'est que quand j'entends Ciotti...
Bruno sera dans mon équipe de campagne.
Voilà, c'est sûr, voilà, direct. Hein. Moi, quand j'entends Ciotti, Wauquiez, même Benhamy, en fait, j'entends la même chose que le RN. Ils disent la même chose, sauf qu'ils disent pas de la même façon, mais avec quasiment les mêmes mots. Et donc, en fin de compte, comment veux-tu incarner une différence? Mais après, et même économiquement, on les entend même plus. Enfin, je veux dire, Ciotti, il éructe à longueur de journée.
Sur l'immigration, oui, c'est vrai.
Mais tu entends Ciotti, j'ai l'impression que c'est le porte-parole du RN à longueur de journée, en fait.
Sur certains sujets, oui.
Voilà, donc comment veux-tu incarner une différence?
Le libéralisme, effectivement, est une valeur plutôt de droite, même si ça peut être aussi incarné par la gauche. Il y a eu pendant très longtemps ce qu'on appelle le social-libéralisme, qui a été incarné à Strauss-Kahn ou même à Michel Rocard, c'est-à-dire l'économie de marché, mais aussi on redistribue pour aider. On peut appeler ça la gauche sociale, la droite sociale. Mmh. Après, la droite libérale, elle n'existe plus. Alors, s'il y a le maire de Cannes, David Zisnard, qui veut l'incarner, mais moi, quand je regarde les programmes, des derniers candidats de droite, on est sur des programme assez classique, étatiste, interventionniste.
Fillon, non.
C'est le dernier Fillon.
Mais même Pécresse, vrai, son programme, il était plutôt dur sur le plan économique.
Et puis, pardon, mais quand tu regardes, c'est intéressant, c'est regarder les sondages pour Bardella. Qui aujourd'hui, Bardella arrive à séduire? Il arrive à séduire vraiment le corps électoral de droite, c'est-à-dire les retraités, les seniors, maintenant. Ce que Marine Le Pen avait du mal à faire, mais Bardella arrive à séduire.
C'est le genre idéal.
Arrive à séduire les seniors,
rien qui marche mieux en politique que le genre
arrive
idéal.
À séduire les CSP+, qui est le corps électoral de la droite, et donc Bardella, Le Pen élargissent. Marine Le Pen arrive à séduire plutôt la France populaire, et Bardella lui apporte aussi cette France plus âgée qui est la France qui vote traditionnellement à droite. Donc moi je pense qu'effectivement Le Pen Bardella, ce tandem est en train de remplacer la droite, et je pense que les LR peuvent toujours survivre parce que c'est un parti notable. Les LR,
non mais je parle même pas des LR. Moi, je parle même pas d'LR. C'est même pas le sujet. C'est même pas le sujet d'LR. Je suis d'accord que c'est un duo efficace politiquement, etc. Et que Bardella, il est, à mon avis, un peu plus à droite que Marine Le Pen. Donc, il ouvre un peu de champ de ce côté-là. Mais vous, quand vous écoutez de près, je les écoute, hein, Jean-Philippe Tanguy, Sébastien Chenu, tous les porte-parole de ce parti. Ils sont totalement. Oui, mais ils sont totalement europhobes. Ils détestent l'Europe. l'Europe.
Bellamy, quelle est la différence entre Bellamy et Bardella sur l'Europe?
Moi, je suis plus europhile que Bellamy.
Bah oui,
je,
c'est Bellamy, je le candidat de la droite.
De LR. LR, ça n'est pas toute la droite.
Michel Barnier,
mais LR, ça n'est pas toute la droite. Moi, je suis plus. Ils se sont posé la question pour Barnier. Peut-être qu'ils auraient mieux fait de mettre Barnier d'ailleurs. Mais moi, je pense qu'un électeur de droite traditionnel, il est plus europhile qu'europhobe, et je constate qu'ils sont très europhobes, ils sont très étatistes, très interventionnistes. C'est ça que je vais vous dire, qu'en réalité aujourd'hui, vous avez aussi toute une partie de la droite, disons bourgeoise, qui est en réalité chez Macron. Donc en réalité aujourd'hui, la droite, elle est un peu dispatchée parce qu'il n'y a plus d'incarnation forte. Quand il y avait par exemple Sarko, qu'on regrette tous les jours, si on a un peu de bon sens, on le regrette. Le président Nicolas, le dernier président légitime, lui, il savait agréger à lui des électeurs de droite qui aujourd'hui sont éclatés entre Macron, RN, Reconquête, LR, etc.
Ce que vous ne dites pas, c'est que en fait, outre le fait que la droite n'est pas incarnée, et tu rentres dans un détail, toi, de programmation et de société qui est clairement définie par la droite, pour ceux qui se donneraient la peine d'aller le lire, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. On peut aller regarder de manière très précise ce que défendent les uns et les autres et se faire une opinion. Ça, c'est la citoyenneté idéale, où chacun pourrait dire « je suis à droite pour telle raison, je suis au RN pour telle raison, et où je suis dans la droite sociale pour telle raison, etc. » Ça n'est pas le cas. Je pense qu'il y a trois critères qui font que les gens pensent que le RN incarne pour eux cette droite. D'abord, c'est la sécurité, le pouvoir d'achat et l'immigration. Et sur ces sujets-là, où il y a un échec total des partis traditionnels qui vont de la gauche en passant par RPR, UMP, PS, tous ceux qui ont été au pouvoir, et que Macron a su de manière intelligente pulvériser pour arriver au pouvoir. C'est-à-dire qu'il a fait table rase de ce clivage droite-gauche qui finalement, on a cru que c'était une bonne idée au départ, mais qui finalement a complètement redistribué les cartes. L'électeur, lui, qu'est-ce qu'il se dit ? On a moins de pouvoir d'achat, on vit moins bien, il y a de l'insécurité et l'immigration est un problème. Il fait l'équation, il pense que le RN, tout le reste de ce que tu déroules...
pouvoir d'achat n'a aucune solution.
L'électeur, il s'en fout. Il sait que lui...
Ils n'ont pas de proposition concrète.
Oui, mais qu'est-ce qui fait son succès ? C'est-à-dire qu'il te faudrait des milliers et des milliers et des milliers d'heures avec des gens totalement attentifs pour que tu leur démontres preuve à l'appui avec une programmation intelligente en leur disant, regardez, le RN est contre l'Europe. Le RN ne baissera pas les dépenses publiques. Le RN ne débaissera pas
le
cher.
Que le RN soit contre l'Europe,
Oui.
Et pourquoi le RN fonctionne ? C'est parce que le RN représente ce que quand même beaucoup de Français et même beaucoup d'Européens se disent. Il faut une Europe aujourd'hui plus protectrice, plus souverainiste. Le fédéralisme n'est pas à la mode, ce qui est à la mode, et pas seulement en France, c'est effectivement les frontières, c'est important, il faut réussir à réduire l'immigration, il faut reprendre un peu notre destin en main. On a l'impression que les choses nous échappent, la crise agricole l'a démontré, c'est-à-dire que les agriculteurs, ils ont l'impression que finalement, ils travaillent pas pour eux, ils travaillent pour des règles, des normes qui sont établies loin de chez eux.
Donc, t'es d'accord, Olivier, que c'est pas la programmation qui fait ça, c'est en fait 3-4 éléments importants.
Ils sont en phase avec une bonne partie de ce que les gens veulent aujourd'hui.
Et donc
aujourd'hui.
Maintenant la question c'est pourquoi la droite sociale qui devrait justement incarner cette attente, elle l'incarne plus, non seulement parce qu'il y a personne, mais en même temps pourquoi ces idées ont totalement été soit dissoutes ou soit certaines carrément reprises par le RN.
Non, mais la droite aujourd'hui, elle n'existe plus. En l'état actuel des choses, la droite traditionnelle, elle n'est plus vraiment incarnée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut y avoir des petites percées de reconquête, de machin. Oui. C'est parce qu'il n'y a plus un mouvement fort pour incarner la droite. Mais moi, je pense par exemple que sur l'Europe, les électeurs de cette droite traditionnelle, je ne pense pas du tout qu'ils soient souverainistes à l'échelon national. Autant je pense qu'ils peuvent être pour une Europe qui va se protéger plus, un peu comme le font les États-Unis et les Chinois, mais à l'échelle de l'Europe. Et on voit bien aujourd'hui que pour peser face aux géants mondiaux, ça ne peut se faire qu'à l'échelle de l'Europe. C'est que quand on cogne à l'échelle européenne qu'on peut avoir voix au chapitre, pas à l'échelle nationale. Et ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de Français qui en sont conscients.
Eh bien, puisque la discussion est lancée, il ne reste plus qu'à vous intervenir maintenant au 32-16. Est-ce que le RN a remplacé la droite ? Oui pour le trio Bruno, Zora, Olivier. Non pour l'homme seul face au reste du monde, Charles Consigny. Qui va remporter ce match?
Charles,
eh bien, vous le saurez en venant y participer au 32-16, en restant à l'écoute des GG des Grandes Gueules. Vous le saurez dans un instant.
RMC jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules.